Il est 21h. Vous êtes sur Kan, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir, Rachel Haddad, en technique avec moi, Michael Oshvang. Vous êtes sur Kan en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Dans le magazine de ce soir, à 21h30, nous nous entretiendrons avec Judith Langlard, doctorante en histoire de l'art à l'EHESS. En combinant l'histoire de l'art avec des approches critiques des sciences sociales, elle analyse les usages politiques de l'histoire et les controverses entourant la représentation de la Shoah dans l'art en Israël au cours des dernières décennies. Elle nous parlera du traitement de la mémoire collective de la Shoah et des dérives que l'on peut observer dans les fameux voyages en Pologne. Mais tout d'abord, voici les principaux titres de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 mai 2024, 213e jour de la guerre d'Israël contre le Hamas. Israël a commencé hier et aujourd'hui à évacuer une partie de la population civile de la région de Rafah. L'armée a précisé qu'il s'agissait là d'une opération limitée et non d'une évacuation complète de Rafah. Le Hamas a déclaré accepter la proposition de cesser le feu d'Israël quelques heures après qu'Israël ait annoncé l'opération à Rafah. Les implications de l'annonce du Hamas selon laquelle il accepte l'offre de cesser le feu ne sont pas encore claires. Il y a quelques minutes, le bureau du ministre de la Défense, Yoav Gallant, a publié une déclaration indiquant qu'il avait rencontré ce soir le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant général Herzi Halevi, et le chef de la direction des opérations de l'armée israélienne, le major général Odette Bassiouk. Les trois ont discuté des plans opérationnels attendus de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, avec un accent sur la région de Rafah. Les responsables israéliens mettent en garde contre le fait de prendre pour argent comptant l'annonce du Hamas selon laquelle il accepterait un accord de cessez-le-feu. Des responsables ont déclaré au réseau Knesset Israël, à la chaîne numéro 12 et 13, que les conditions acceptées par le Hamas n'étaient pas celles qui avaient été acceptées par Israël. Selon les réseaux, l'offre acceptée par le Hamas est une offre faite unilatéralement par l'Égypte et qui n'est pas prise au sérieux à Jérusalem avant que les détails de l'offre ne soient tout à fait clarifiés. Les médiateurs américains, égyptiens et qataris avaient négocié ces derniers jours avec le Hamas une proposition en trois phases approuvée par Israël. La proposition n'a pas été publiée, mais elle prévoyait dans un premier temps la libération de 33 otages vivants, des femmes, des enfants, des personnes âgées et des malades. Au cours d'une trêve de 40 jours, en échange de certains prisonniers sécuritaires palestiniens, on parlerait de près de 1 500 prisonniers palestiniens. Néanmoins, la chaîne 12 cite des responsables israéliens affirmant que l'équipe de négociation vient de recevoir la réponse du Hamas de la part des médiateurs. Le rapport indique qu'Israël évaluerait actuellement soigneusement cette réponse et publierait des commentaires ordonnés un peu plus tard dans la soirée. Il indique que les responsables israéliens affirment déjà que ce n'est pas la même proposition d'accord sur laquelle Israël et l'Égypte se sont mis d'accord il y a 10 jours et qui a servi de base aux négociations indirectes depuis lors. Toutes sortes de clauses auraient été insérées, c'est ce qu'a indiqué un reportage télévisé. Ces nouvelles clauses, entre autres questions, concernent les questions cardinales de savoir si, comment et quand la guerre prendrait fin et quel type de garanties sont offertes à cet effet. Le Hamas, note le rapport, a durci ses exigences ces derniers jours et a exigé que la guerre prenne fin au cours de la première phase de 40 jours de l'accord plutôt qu'au cours de la deuxième ou de la troisième phase. Israël, pour sa part, a rejeté à plusieurs reprises la fin de la guerre dans le cadre d'un accord sur les otages, insistant plutôt sur le fait qu'il reprendrait les combats une fois l'accord mis en œuvre, conformément à son double objectif de guerre, rendre les otages et détruire l'armée du Hamas et ses capacités de gouvernance. Ensuite, ça vient d'arriver dans une vidéo de 8 minutes publiée sur les réseaux sociaux. Bernie Sanders met en lumière la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque horrible du 7 octobre. Il affirme qu'Israël avait le droit de répondre à l'attaque, mais qu'il n'avait pas le droit d'entrer en guerre contre l'ensemble du peuple palestinien, ce qu'il est en train de faire maintenant, je cite. Bernie Sanders a également, dans cette vidéo, déclaré son intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Hier, 4 soldats ont été tués et 12 blessés, dont 3 grièvement dans un barrage de roquettes tiré hier depuis la région de Rafah sur les forces de l'armée israélienne dans la région de Kerem Shalom. Les morts sont Ido Testa, 19 ans, Tel Shavit, 21 ans, Michael Rosal, 18 ans et Reuven Marc Mordechai Assouline, 19 ans. Reuven était originaire de Rahanana, membre d'une famille qui avait immigré en Israël depuis la France il y a une dizaine d'années. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui au cimetière militaire de la ville. Nous recevons ce soir Laurent Ayache, adjoint au maire de la ville de Rahanana, qui nous parlera du défunt. Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes en ce moment à un barbecue avec des Hayalim. Reuven était le camarade de classe de votre fils et un membre de la communauté francophone de Rahanana. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce jeune homme ?
C'est un jeune homme donc qui a fait son alia, comme vous l'avez dit, il y a 10 ans exactement, une famille qui est originaire de Lyon. Et donc, il est arrivé à l'âge de 9 ans. Donc, il a le primaire, secondaire, le collège, le secondaire, le lycée. Il a depuis 5 ans, il était une petite amie que j'embrasse très très fort et je pense très très fort à elle, Eva, un vrai amour de jeunesse qui durait depuis 5 ans, Eva Seror. Et donc ce jeune a été fauché hier. Et ce n'est pas qu'une famille qui est brisée et dévastée, c'est toute la communauté francophone de Rahanana et toute la ville de Rahanana qui se sont retrouvés aujourd'hui. Tout d'abord, tout le long du cortège.
Alors, il semble qu'on a une interruption légère avec Laurent. Nous allons essayer de le recontacter. Je continue avec certaines nouvelles de cette journée. Cibler Israël et nous vous ciblerons, c'est ce qu'ont prévenu une douzaine de sénateurs républicains dans une lettre adressée au procureur en chef de la Cour pénale internationale, Karim Khan, alors que la Cour pénale internationale envisagerait d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. La Cour pénale internationale tente de punir Israël pour avoir pris des mesures légitimes d'autodéfense contre ses agresseurs soutenus par l'Iran. En fait, selon vos propres mots, vous avez été témoin de scènes de cruauté calculée menées par le Hamas en Israël à la suite des attentats du 7 octobre. Ces mandats d'arrêt aligneraient la Cour pénale internationale sur le plus grand État soutenant le terrorisme et son mandataire. Pour être clair, il n'y a aucune équivalence morale entre le terrorisme du Hamas et la réponse justifiée d'Israël, écrivent les sénateurs. Il est également interdit à la Cour pénale internationale, selon sa charte, de poursuivre des poursuites dans tous les cas, à moins que le gouvernement concerné ne veuille ou ne puisse pas se contrôler lui-même. Vous avez vous-même déclaré qu'Israël disposait d'avocats formés qui conseillent les commandants et d'un système solide destiné à garantir le respect du droit international humanitaire. En émettant des mandats, vous remettriez en question la légitimité des lois, du système juridique et de la forme démocratique de gouvernement d'Israël. Alors, Laurent Ayache est de retour avec nous. Laurent, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé.
Vous parliez du cortège au moment de l'enterrement.
Voilà, du cortège. Donc, comme je vous disais, toute la ville s'est mobilisée pour accompagner à sa dernière demeure Reuven. Et donc, toute la ville, tout le long du convoi, était drapée de drapeaux d'Israël. Et plusieurs milliers de personnes ont assisté aux funérailles. La ville de Rahanana a, depuis le 7 octobre, été durement touchée. Et plus d'une dizaine de soldats sont déjà tombés, et particulièrement la communauté francophone, puisque c'est le cinquième soldat francophone habitant de Rahanana, enfant de Rahanana, qui est fauché dans sa jeunesse. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'une seule famille qui pleure, mais c'est toute la ville qui pleure, et c'est un vrai déchirement. L'ami de nos enfants, un enfant qu'on a vu grandir, qui est aujourd'hui... plus parmi nous. C'est une vraie douleur.
Alors Laurent Ayache, vous êtes adjoint au maire de la ville de Rahanana. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la manière dont la ville, en tant qu'institution, fait face à ce genre de pertes ? Comment est honorer, célébrer la mémoire des soldats tombés et des victimes ? Parce que je sais qu'il y a également eu un attentat à Rahanana il y a plus de deux mois. Alors comment la ville fait face ?
Bon, alors, on va parler de ce qui s'est passé, par exemple, hier soir. Hier, en fait, à 5 heures, l'armée est venue donc prévenir la famille que leur enfant était tombé. La famille, très désemparée, parce que bon, on n'a pas, malgré le fait que depuis 10 ans, ils étaient là, on n'a pas l'expérience, qu'ont les expériences face, les Israéliens face à ce genre d'épreuves douloureuses. Donc ils m'ont tout de suite contacté, l'armée m'a contacté pour que je vienne aider la famille, aider pour les préparatifs, prendre les décisions. Et disons que dans un premier temps, il y a un élan de générosité. Tous les amis, tous les proches sont venus directement au domicile pour enlacer la famille et que la famille ne soit pas seule. Au niveau de la mairie, donc on met en place tout de suite tout ce dont la mairie, tout ce dont la famille peut avoir besoin, aussi bien pour l'organisation de l'enterrement, mais pour ensuite la période de deuil des 7 jours, des Shiva, que ce soit au niveau du matériel, etc. Bon, l'armée donne la majorité des choses, mais la mairie fait en sorte qu'il ne manque rien. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a plusieurs soldats qui sont morts et il y a beaucoup d'actions. Une fois que la famille a retrouvé un peu de sérénité, ça prend un mois, deux mois, trois mois, des actions qui sont menées. Et ce sont des actions qui restent privées, qui restent au sein de la famille. C'est la famille qui prend la décision ou les amis qui prennent la décision de faire une action. Et disons qu'avec la mairie, on essaye de les accompagner, de les aider à pouvoir accomplir ce dont ils veulent faire pour honorer la mémoire de leur disparu. À titre, on va dire, officiel, pour l'instant, on attend vraiment la fin de cette guerre pour pouvoir effectivement honorer comme il se doit de façon officielle tous nos disparus. Donc on attend et on espère que ça sera très rapidement la fin de cette terrible période pour pouvoir à titre officiel nommer des parcs, je sais pas, on trouvera quoi faire, mais pour pouvoir vraiment honorer la mémoire de tous ces héros qui sont tombés si jeunes et dont la vie s'est arrêtée alors qu'ils étaient qu'au début de leur parcours. Voilà.
Laurent Ayache, merci beaucoup pour votre intervention.
J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, mais dans des situations plus joyeuses. Et aujourd'hui, double peine, Yom HaShoah, avec cette enfance Gibor qui est mort en héros et qu'on a accompagné à sa dernière heure. J'espère qu'on aura très rapidement des journées beaucoup plus joyeuses.
Je l'espère aussi. Merci beaucoup, Laurent.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
La Cour pénale internationale, donc, qui envisagerait d'émettre des mandats d'arrêt contre des hauts responsables israéliens, a été l'objet de remontrances de la part d'un certain nombre de sénateurs américains. Ils ont prévenu, si vous allez en avant avec les mesures indiquées dans votre rapport, nous mettrons fin à tout soutien américain à la Cour pénale internationale, nous sanctionnerons vos employés et associés et nous vous interdirons ainsi qu'à vos familles l'entrée sur le territoire américain. Les États-Unis l'ont réaffirmé, ils ne soutiendront pas l'offensive de Rafah actuellement envisagée par Israël. Les États-Unis ont déclaré que puisqu'ils n'ont pas encore vu de plan crédible et réalisable pour protéger plus d'un million de Palestiniens qui s'abritent à Rafah, il n'y aurait pas de soutien américain de cette opération. S'exprimant quelques heures après qu'Israël ait commencé à ordonner l'évacuation des quartiers est de Rafah, Matthew Miller, Miller, le porte-parole du département d'État, a déclaré qu'une telle offensive augmenterait considérablement les souffrances du peuple palestinien, entraînerait une augmentation des pertes en vie civile et perturberait l'acheminement de l'aide humanitaire qui passe en grande partie par les zones que l'armée israélienne envisagerait de cibler. Le porte-parole note qu'aucune ligne de distribution interne n'a été établie dans les zones où les civils sont invités à fuir, ajoutant que la mise en place de ces mécanismes sera difficile, voire impossible en pleine guerre. Miller affirme que les ordres d'évacuation de l'armée israélienne touchent quelques 100 000 Palestiniens, mais que d'autres sont susceptibles de les rejoindre s'ils voient un grand nombre de civils fuir autour d'eux. Le problème maintenant est qu'il y a très peu d'endroits où ils peuvent se rendre à l'intérieur de Gaza et qu'il n'existe aucun moyen efficace de leur distribuer de l'aide et de garantir qu'ils aient accès à un abri, à des installations sanitaires, dans des endroits où ils pourraient éventuellement se rendre. En Cisjordanie, les forces de l'armée israélienne, du Shin Bet et des forces des frontières sous la direction des services de renseignement israéliens opèrent depuis l'année dernière dans la région de Toulkarem, dans le cadre d'une opération de lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne dans une déclaration conjointe avec le Shin Bet et l'armée israélienne, ajoutant que jusqu'à présent, les combats avaient éliminé un terroriste armé, détruit un laboratoire d'explosifs, localisé un autre laboratoire et confisqué des munitions. Les forces du génie ont découvert des charges enterrées sous des haches, ont attaqué des complexes et des bâtiments, recherché des armes illégales et interrogé des suspects. Dans le même temps, les combattants ont opéré ce soir pour arrêter 13 suspects recherchés dans la Cisjordanie. Ces personnes ont été transférées pour une enquête plus approfondie par la sécurité. Il n'y a aucune victime parmi les forces de sécurité israéliennes. Le chef du Mossad, Dedi Barnea, a déclaré lors de la cérémonie du souvenir dans le salon Zikaron Basalon, qui marque le jour de commémoration de la Shoah, que nous avons reçu l'ordre de ramener les otages des tunnels de la mort à Gaza. La base morale de leur retour chez eux est profonde et contraignante. Le Mossad, dont je suis à la tête, retournera chaque pierre pour les ramener chez eux, chez nous, chez leurs proches, dans leur famille, dans leur maison, en terre d'Israël. Il a ajouté aujourd'hui plus que jamais la déclaration de « plus jamais ça »,« never again », est un mot d'ordre moral pour moi, pour nous tous, qui avons choisi d'agir pour réaliser notre vision, la vision visant à assurer l'éternité d'Israël dans un souci de profond sens de la mission. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu hier au téléphone avec le Premier ministre Netanyahou. L'Élysée a rapporté après la conversation que Macron avait réitéré auprès de Netanyahou que la libération de tous les otages était la priorité absolue de la France et en particulier celle de Doad Yahami, Ofer Calderon et Orion Hernandez, qui possède la nationalité française. En outre, Macron a encouragé Netanyahou à achever le cycle de négociations en cours, précisant que la France soutenait pleinement les efforts de médiation. Selon lui, le sort des Palestiniens à Gaza ne peut plus être soumis aux activités terroristes du Hamas et les opérations israéliennes doivent cesser. Il a réitéré sa ferme opposition à une action militaire à Rafah et à la nécessité d'assurer un flux massif d'aide humanitaire. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu cet après-midi avec le Premier ministre Netanyahou dans le contexte des préparatifs israéliens pour cette incursion terrestre à Rafah. Avant la conversation, qui a duré environ une demi-heure, les États-Unis avaient demandé des éclaircissements à Israël concernant l'action prévue. Des pourparlers entre les responsables américains et leurs homologues israéliens devraient également avoir lieu prochainement. Rafah sera tout de même une action limitée et graduelle. En Israël, il faut le noter, on a décidé d'agir pour le moment de manière limitée. Et on ne ferme la porte aux négociations en vue d'un éventuel accord comme on l'a dit précédemment, des suites de la déclaration du Hamas d'acceptation d'un accord de cessez-le-feu. Des responsables israéliens sont en train d'examiner en ce moment même la proposition du Hamas. L'action à Rafah serait donc très limitée, permettrait à tout moment de revenir à la table des négociations si le Hamas cédait. Un autre responsable israélien a déclaré à nos confrères de Ynet que même si l'évacuation des civils avait commencé, tout était toujours réversible. Il a expliqué que si le Hamas acceptait l'accord, l'opération pourrait être stoppée. La décision de lancer une opération progressive à Rafah, qui commencera par l'évacuation de la population de l'est de la ville près de la frontière avec Israël et se poursuivra par étapes, n'a finalement été acceptée qu'hier soir par le cabinet de guerre. Elle a été précédée par deux événements. L'insistance du Hamas a insisté sur la fin de la guerre et le barrage meurtrier de Rafah sur Kerem Shalom, au cours duquel 4 combattants ont été tués. Malgré les menaces publiques persistantes, principalement de la part du Premier ministre Netanyahou hier soir, c'était en fait la première fois au cours de ces 4 derniers mois, depuis qu'une opération à Rafah était sur la table, que Netanyahou présentait même la première phase opérationnelle à Rafah et a exigé que les ministres du cabinet de guerre présentent leur position sur la question. Les ministres ont soulevé des questions au cours de la discussion et ont finalement décidé à l'unanimité d'en approuver la première phase. Alors évidemment, cette décision risque d'être remise en cause au vu des derniers déroulements et de la déclaration du Hamas sur l'accord d'un éventuel cessez-le-feu. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré aujourd'hui que l'armée israélienne étendait la zone humanitaire à Al-Mawassi et appelait la population à évacuer temporairement les quartiers est de Rafah vers la zone humanitaire élargie. Un message dans cet esprit a également été transmis à la population gazaoui par le porte-parole de l'armée israélienne en arabe. Enfin, Bernard Pivot, ancien président de l'Académie Goncourt, auteur, présentateur d'Apostrophe, est décédé à l'âge de 89 ans à Neuilly-sur-Seine. C'est ce qu'a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'agence France Presse ce lundi 6 mai 2024. Dans un entretien pour le journal du dimanche, en avril 2023, l'homme de lettres avait révélé être atteint d'une maladie. Le mal m'a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole. Apostrophe, dictée, Goncourt, voilà en 3 mots résumé une vie dédiée à l'amour des livres et de la langue. C'est un vendredi soir de janvier 75 que Bernard Pivot s'invite dans le Salon des Français pour la première des 724 émissions d'Apostrophe. Le rendez-vous reste inégalé, l'émission situera 2 à 3 millions de téléspectateurs chaque semaine pendant 15 ans. Bernard Pivot a démarré sa carrière par un stage au Progrès à Lyon avant de travailler au Figaro littéraire en 1958. Lorsque l'hebdomadaire est supprimé en 1971, Bernard Pivot devient le rédacteur en chef du Figaro qu'il quitte 3 ans plus tard après l'arrivée de Jean d'Ormesson. Bernard Pivot passe aussi à la radio, dont RTL, dans les années 80. Un livre à la main, sa paire de lunettes dans l'autre. Bernard Pivot avait également présenté l'émission Bouillon de culture, organisée à partir de 1985, et les Dico d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. En 2004, Bernard Pivot est le premier journaliste à intégrer l'Académie Goncourt, dont il deviendra le président jusqu'en 2009. Mais la plus grande fierté de celui qui aimait à se présenter comme un militant de l'augmentation du goût de la vie restera d'être entré dans le Larousse. C'était les principaux titres pour aujourd'hui. La météo pour demain. Le temps sera partiellement nuageux avec une légère hausse des températures, mais celles-ci resteront inférieures à la moyenne de la période. Dans la matinée, il pourrait y avoir de légères pluies locales sur le centre du pays. Il est 21h26 et voilà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis encore ce soir. Écoutez-nous en direct à la radio sur le 101.3 FM ou encore sur l'application gratuite de Cannes dans la section RECA. Rejoignez-nous sur ce rendez-vous de Facebook Live du dimanche au jeudi à 21h ou bien quand cela vous arrangera en replay. Quant à nos interviews, elles sont toutes disponibles sur nos podcasts et sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts. N'hésitez pas à faire vos commentaires ou à partager. Pour nous trouver, c'est très simple, vous avez qu'à taper les mots Cannes en français. Cela vient d'arriver, le porte-parole de Tsahal, de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré lors d'une conférence de presse de l'armée de l'air avoir mené aujourd'hui des frappes contre plus de 50 sites appartenant à des groupes terroristes dans la région de Rafah au sud de Gaza. Il affirme que ces frappes surviennent alors que l'armée se prépare à lancer une opération terrestre dans l'est de Rafah, où l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation ce matin. Nous rappelons que le Hamas a déclaré être en faveur d'un accord de cessez-le-feu. Hein, c'est ce qu'a déclaré de manière ouverte aujourd'hui Ismaël Haniyeh, haut responsable du Hamas, a déclaré à l'agence France-Presse qu'après que le Hamas ait accepté la proposition de cessez-le-feu proposée par les médiateurs, la balle serait désormais dans le camp de l'occupation, je cite, l'occupation israélienne, qu'elle accepte l'accord de cessez-le-feu ou qu'elle y fasse obstacle. Merci donc à Michael Hochelang pour le travail en technique. À demain et shalom depuis Jérusalem. Dans quelques instants, le magazine. Bonne fin de soirée et à demain.
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français.
Chaque année, un quart des lycéens israéliens entreprennent un voyage scolaire en Pologne pour commémorer la Shoah. Ce voyage est connu en Israël sous le nom de voyage en Pologne. Depuis ses débuts, à la fin des années 1980, le voyage traditionnel comprend 100 adolescents, 4 camps de concentration, 3 charniers, 2 ghettos et 14 services commémoratifs en 8 jours. Mais le fait que de nombreux étudiants téléchargent des vidéos de leur voyage sur YouTube est un phénomène beaucoup plus récent. Alors que les derniers survivants de la Shoah approchent à la fin de leur vie, les jeunes Israéliens ont hâte d'immortaliser le traumatisme collectif. Le partage de vidéos devient un outil central dans les efforts de commémoration et adolescents, enseignants et parents filment chaque témoignage, chambre à gaz et cérémonie ainsi que les sorties nocturnes à l'hôtel et les selfies vidéo. Ils éditent leur version de l'histoire et partagent les clips en ligne, les ajoutant ainsi à une archive YouTube en constante expansion de plus de 20 000 clips. Uploading Holocaust est une sélection de ces vidéos générées par les utilisateurs, offrant un point de vue unique sur une nouvelle génération, tout en révélant une image troublante de la façon dont la mémoire collective se forme à l'ère du web. En ce jour de Yom HaShoah, nous recevons Judith Langlard, doctorante à l'EHESS. Elle est spécialisée dans l'histoire de l'art et dans la représentation de la Shoah dans l'art vidéo depuis les années 70. Judith, bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je voudrais commencer à parler un peu de ce besoin très humain au final de retourner sur les lieux d'un traumatisme. Alors au sujet de la Shoah, c'est la Pologne, les lieux qui ont été l'arène des massacres de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de revenir sur les lieux d'un traumatisme?
C'est une question qui est extrêmement complexe. Je pense qu'il y aura des psychanalystes, des psychologues qui pourront faire d'autres analyses. Mais disons que moi, si aujourd'hui je parle aussi de Yom HaShoah en Israël, donc se rappeler ou se souvenir depuis Israël, c'est se souvenir de loin. C'est-à-dire qu'en plus de l'effort de combler l'éloignement chronologique, c'est-à-dire que chaque jour qui passe nous éloigne de l'événement. Il y a aussi un éloignement géographique d'Israël et donc un éloignement physique en fait de ces lieux. Donc, et depuis les années 80, il y a eu l'instauration du voyage en Pologne, donc Massal et Pauline, qui est durant la dernière année du lycée, où les lycéennes et les lycéens israéliens qui sont amenés à se rendre justement sur les lieux de la Shoah. Donc c'est évidemment dans la perspective de sensibiliser les jeunes israéliens à la mémoire de la Shoah, en visitant les camps d'extermination, les ghettos, mais aussi des lieux d'assassinat de masse, notamment les forêts. Et donc on peut évidemment se demander qu'est-ce que cela apporte. Il me semble que justement, à l'époque des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, qui s'ajoute évidemment à des centaines de films documentaires et fictionnels sur l'histoire et sur la mémoire de la Shoah, le voyage, le fait de se rendre sur les lieux, permet peut-être de se rendre compte d'une chose, c'est des échelles, des distances qui séparent les bâtiments les uns des autres, des paysages qui entourent ces lieux qu'on voit évidemment beaucoup en photo ou en film, mais voilà, les échelles, les proportions, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rendre ni par le film, ni par la photographie, ni par l'écriture.
Alors justement, parlons-en de la photographie et de la vidéo. Vous étudiez la mémoire de la Shoah depuis les années 70 dans l'art vidéo, et j'imagine que vous vous êtes également penché sur la manière dont la mémoire collective de la Shoah était traitée avant la démocratisation des caméras et de l'Internet. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du changement qui s'est opéré justement depuis l'arrivée de ces médias?
Alors, bon, c'est une question qui est extrêmement complexe, parce que maintenant, disons que ça fait maintenant des décennies qu'on fait face à cette espèce de bouleversement qui n'en finit pas, puisque les technologies évoluent. Mais je pense qu'on peut quand même identifier, disons, d'une part, un processus d'uniformisation, donc déjà une uniformisation esthétique. Pourquoi ? Parce que, disons que la mémoire de la Shoah, comme tout autre sujet qui passe à travers les plateformes comme Internet et par extension les réseaux sociaux, sont soumises, la mémoire de la Shoah est soumise au code esthétique de ces plateformes. Donc par exemple, quelque chose de significatif qu'on peut citer, c'est le Eva Project sur Instagram. Ce projet, c'est un projet d'ailleurs qui a été initié par un Israélien qui est sur Instagram et qui en fait relate jour après jour, la vie quotidienne et le bouleversement de cette vie quotidienne d'une jeune fille qui s'appelle Eva et qui est juive. Et c'est un petit peu comme si on est face à la Shoah à l'époque d'Instagram.
Donc ce serait une sorte de journal d'Anne Frank TikTok.
Oui. Après, le deuxième point, de l'impact d'Internet sur la mémoire de la Shoah, c'est, comme vous l'avez évoqué, une certaine démocratisation, au sens où Internet et les réseaux sociaux offrent aussi la possibilité à chacune et à chacun d'entre nous d'exprimer son propre lien à ses histoires et à ses mémoires. Et donc, ça permet aussi d'aller au-delà, disons, d'un récit unitaire, unifié, et d'être créatif, et donc de refléter en fait la pluralité des liens qui existent à cette mémoire et ce passé.
Beaucoup des artistes que vous étudiez dans votre thèse sont pour certains rescapés de la Shoah ou seconde génération. Comment eux font face à cette évolution du traitement de la mémoire de la Shoah, et plus particulièrement en réalité, comment traitent-ils cette idée de jour de commémoration de la Shoah et surtout la manière dont il est commémoré ici en Israël?
Alors, c'est bien sûr au cœur de cette recherche. C'est une recherche qui traite donc de la mémoire de la Shoah dans l'art vidéo depuis les années 70, c'est-à-dire depuis l'apparition du médium vidéo en Israël, et donc les répercussions, disons, de l'apparition de ce nouveau médium sur la mémoire et sur le traitement visuel de la Shoah. Donc ça, c'est difficile, disons, de résumer, mais ce que je pourrais souligner, c'est que la question de l'éloignement qu'on évoquait tout à l'heure, donc un éloignement temporel, géographique, parfois générationnel, est au cœur de ce corpus de recherche. Et face à cet éloignement, certains artistes tournent vers les archives, c'est-à-dire les documents, les photos, les écrits testimoniaux, les témoignages filmés, tandis que d'autres expriment plutôt cet éloignement, ou plutôt le questionnent en ayant recours à la fiction. Et ce recours à la fiction, donc on peut parler d'une fictionnalisation de l'histoire, C'est un phénomène qui est omniprésent depuis les années 2000-2010 dans l'art vidéo israélien et peut-être plus largement dans l'art visuel israélien. Après, une des particularités des œuvres vidéo réalisées par les artistes qui ont grandi en Israël, c'est justement leur réflexion autour des dispositifs et des vecteurs mémoriaux qui constituent, qui construisent, qui fabriquent ce qu'on appelle la mémoire collective de la Shoah en Israël. Donc, il y a évidemment Yom HaShoah qui est central. Et ça, bon, on peut citer plusieurs artistes tels que Yael Bartana ou Tammy Bentor qui ont vraiment utilisé le médium vidéo pour répondre à ces codes et notamment à la centralité de Yom HaShoah en Israël. Alors, par exemple, il y a une œuvre vidéo qui est devenue extrêmement connue, iconique, hein, dans l'histoire de l'art israélien. C'est une vidéo d'Yael Bartana qu'elle a fait au début des années 2000, dans laquelle elle filme tout simplement depuis un pont à Yalon, donc le périphérique, disons, de Tel Aviv, durant Yom HaShoah, au moment de la sirène, donc un moment qu'on vit toutes et tous là où on se trouve, au moment où la sirène se déclenche, et elle se trouve donc face à ce flux de voitures, et donc elle filme ce moment qui est très significatif, hein, de ce calendrier dans lequel l'hommage est central, le moment où tout le monde sort de, chacun sort de sa voiture pour se tenir, voilà. Et après, elle joue, disons, avec le montage que permet la vidéo pour justement, d'une part, étendre la sirène, le temps de la sirène, et en plus faire des sortes de superpositions qui donnent une impression de multiplication, en fait, de ces personnes qu'on voit. Dans un, disons, dans une atmosphère qui est aussi celle du, peut-être du retour de ces âmes qu'on appelle, dont on se souvient quand on se tient pendant la sirène.
Mmh. Alors, je vous parlais de l'éloignement et de ce désir de se rapprocher d'une certaine manière du traumatisme de la Shoah, d'en parler, d'en se rapprocher physiquement, de la documenter. Et je ne peux ne pas vous parler d'un rapprochement qui est fait beaucoup ces derniers temps et surtout aujourd'hui dans l'actualité israélienne, puisque le Premier ministre Netanyahou s'est exprimé en ce jour de Yom HaShoah sur le 7 octobre. Il a adressé la comparaison qui était faite comme quoi le 7 octobre était une Shoah. Il a dit que la Shoah était la différence principale entre la Shoah et le 7 octobre. C'est le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de pays ni d'armée pour protéger. Et d'aucuns ont répondu que on se trouvait exactement dans la même situation le 7 octobre puisque on était dans une espèce de défaut d'état à ce moment-là. L'armée n'a pas réagi à temps. On dit aussi que les services de renseignement n'étaient apparemment pas au courant, enfin que l'État aurait abandonné ses citoyens, un peu comme à l'époque de la Shoah. Et je voulais vous demander ce que vous pensiez vous de ce rapprochement qui est fait très souvent donc entre le 7 octobre et la Shoah. Pourquoi le faire? Et quelle est l'utilité d'un tel rapprochement et même la raison plus, je dirais, émotionnelle de le faire?
Alors, je pense que c'est évidemment une question qu'il faut qu'on traite, bon, en tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen, hein, en Israël. C'est-à-dire que le rapprochement du 7 octobre et de la Shoah, il peut évidemment avoir un sens dans la douleur que le 7 octobre engendre aujourd'hui. Pour les Israéliens, pour les Israéliennes, en particulier pour la famille, les familles des otages, et pour évidemment ce manque de défense des citoyens, et aujourd'hui le manque de réaction qu'on voit des pouvoirs publics, où voilà, on voit un ordre de priorité qui clairement ne va pas tellement, hein, dans le sens d'aller sauver les otages à tout prix, en tout cas. Après,
alors d'ailleurs, je veux juste rappeler que à cet instant même où l'on enregistre l'émission, le Hamas vient d'annoncer qu'il acceptait un cessez-le-feu.
Ah bon?
Oui.
D'accord. Donc ça, ce serait, bon, c'est clairement une très très bonne nouvelle. On va voir comment les choses vont évoluer. En ce qui concerne ce rapprochement, je pense qu'il faut aussi être vigilant. C'est-à-dire que l'histoire, elle a été écrite. Des historiens, des historiennes se sont penchés sur les documents pour faire le récit de l'histoire. Aujourd'hui, on est encore dans l'attaque du 7 octobre, tant que les otages ne sont pas rentrés, tant que la guerre ne s'achève pas. C'est difficile d'employer ce mot et c'est évidemment une manière de, pour Netanyahou, ou en tout cas pour le pouvoir public, de créer une émotion connue, c'est-à-dire d'utiliser du connu pour faire face à l'inconnu.
Donc, pour terminer, je voulais vous demander, dans l'ensemble du corpus et des œuvres que vous avez observées, quelle est celle qui vous a le plus marqué, troublé, interpellé, et en quoi est-elle importante à vos yeux?
Alors, bon, ça change tout le temps. C'est-à-dire que, voilà, en fonction des mois, j'ai une œuvre qui me marque le plus. Et je pense qu'aujourd'hui, l'œuvre que j'ai vue il n'y a pas longtemps et qui est d'ailleurs pas une œuvre vidéo à proprement parler, mais plutôt un film documentaire, c'est un film documentaire extrêmement particulier et original, car il est constitué de vidéos en fait qui ont été filmées par des lycéens, des lycéennes, des professeurs, des encadrants, des guides durant le voyage en Pologne et qui ont été postées sur YouTube, donc qui sont accessibles en fait. Donc c'est un film qui s'appelle en hébreu Machane Meshutaf, en anglais Uploading Holocaust, qui a été réalisé par Sagi Bornstein et Udi Nir, sont deux réalisateurs israéliens, voilà, qui est sorti en 2016. Et en fait, ce qui est absolument incroyable dans ce documentaire, c'est que c'est un collage. On voit vraiment le travail de montage hein, qu'ont fait ces réalisateurs, déjà de sélection de vidéos et puis après de montage. Donc c'est une espèce de collage d'une multiplicité de voix et de regards de ces jeunes qui font ce voyage, qui réagissent à ce voyage, qui parfois ne sont pas dupes non plus de ce qu'on cherche à les faire ressentir. Parfois ils sont estomaqués justement face à leur manque d'empathie ou leur désir aussi de parler de bêtises ou pas d'ailleurs, comme on peut le faire à tout âge et particulièrement quand on a 17 ans. Et ils partagent leurs peurs, ils partagent leurs souvenirs, leurs discussions intimes. Et voilà, c'est, disons, un film qui vraiment montre la complexité de ce voyage, qui est un voyage initiatique, hein, et qui parfois montre, enfin, dans ce film, on voit bien que la volonté de transmettre hein, la mémoire de la Shoah parfois dérive vers une sorte de création de traumatisme chez les lycéens, à un moment qui est crucial dans la construction de soi, et seulement quelques mois avant leur service militaire. Donc il y a aussi évidemment une visée nationale. Donc voilà, c'est un film que je conseille vivement et peut se voir en famille et qui permettra, je pense, d'ouvrir beaucoup de discussions intergénérationnelles aussi.
Oui, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur la création de traumatisme, puisque j'ai regardé quelques extraits du film et j'ai surtout cette scène en tête d'un professeur qui emmène ses étudiants à l'intérieur d'un wagon de train qui aurait emmené des millions de juifs à leur mort, et il leur fait une espèce de méditation pour les faire se mettre dans la peau des gens qui étaient dans le train à ce moment-là. Alors, il y en a qui vont trouver que c'est une bonne manière de faire, d'aider les enfants à réaliser ce qui s'est passé et de prendre la mesure de l'horreur. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que c'est bien nécessaire de ressentir pour comprendre ?
C'est une question qui est cruciale, hein. C'est sûr, et on le voit bien dans ce documentaire, que en fait, les professeurs et les guides font appel à disons, des outils du théâtre, des outils de la performance, pour engendrer un ressenti qui est bien précis, c'est-à-dire un ressenti dans lequel on se sent menacé, victime, empathique évidemment, mais qui ne va pas de soi. Donc parfois on met les lycéens et les lycéennes dans des situations qui sont peut-être trop extrêmes. Et donc voilà, c'est encore quelque chose, je pense, qu'il va falloir ajuster. Et on voit aussi parfois des moments où justement il y a une forme d'honnêteté hein, des lycéens, leur intérêt, leur curiosité, mais aussi leurs interrogations face à la fonction de ce voyage.
Judith Langlard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la pince au poignet qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, vos cris me dérangent, je rêve. Voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la pince voilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve.
But that's all right, mother says, son, listen, you know, oh.
אני זוכר אותך, הצעדים שלך הם פעם encore.